Janvier 2003. Sur la frontière franco-espagnole des Pyrénées-Orientales, à Cerbère, Perpignan, Tuir ou Prats de Moyo.
Avant de quitter l'Algérie, on avait un commerce, mon frère et moi.
Je suis cervérien d'origine.
Barcelone tombe le 26 janvier.
Moi, j'habitais à Barcelone.
Les révolutionnaires espagnols antifranquistes, exilés en France en 1939, 1960 ou 1975, et des sans-papiers maghrébins du collectif de Perpignan témoignent, mêlent leurs voix, leurs histoires, leurs expériences propres de la frontière.
Je suis entré dans Alicante de Perpignan.
Ils sont aujourd'hui unis dans une même lutte pour la régularisation des sans-papiers.
Quand de Rivesaltes
Il y en a des sans-papiers, il y en a des papiers, il y a des nationalités.
Donc je connais des mastartas.
Je suis nationalité algérienne. Je suis de l'Ouest.
Leurs chemins se croisent parfois. Au camp de Rivesaltes, par exemple. Ancien camp de concentration où furent internés des réfugiés espagnols en 1939, devenu centre de rétention où des étrangers sans papier attendent leur expulsion. Les premiers mots pourraient être ceux de José Pobla.
Bah, des souvenirs, j'en ai beaucoup. Bon, mon nom, c'est Pobla, tout simplement. Et il est évident, on est rentré en France février 1939, avec mes parents, par la place de Moyo. Là, il est évident que, si je racontais mon histoire au mois d'une année d'un gosse de 10 ans, il y a un bout de chemin.
Je rentre à la France le 12 juillet 2000, presque 3 ans. Ouais. Je rentre à le bateau Aura Alicante. Ouais. Alicante ici avec voiture. Je demande où tu vas, il m'a dit à Perpignan, bah, moi je te monte.
Moi, je suis arrivé en France juste avant la mort de Franco, 75 ans. Et bon, j'y ai passé, comme dans la vieille méthode. Je me suis arrêté à Nouria, c'est pour ceux qui connaissent un tout petit peu. Nouria, c'est à côté d'une station de ski.
Nous,
je suis passé par l'école de Joux. Je suis passé par l'école de Joux. Je suis passé là. Bon, l'avantage qu'il y a à Nouria, c'est qu'il y a un petit train qui amène. Et dès qu'il y a un excursionniste, on peut prendre la montagne. Et je suis parti jusqu'à Joux. J'ai choisi ce chemin-là, puisque Franco, quand même, il faut se rappeler qu'un mois avant, encore, il avait fusillé 100 personnes. Alors, je ne pouvais pas me permettre de passer par des terrains beaucoup plus plats que c'est par la Cerdagne. Hein? Alors, je voulais la sortie sûre. La sortie sûre, c'est que si j'ai 500 mètres d'avance devant la garde civile, eux, ils sont moins motivés que moi pour passer la frontière. C'est cet aspect-là pourquoi j'ai décidé de passer.
C'est pour le Figman, non?
Oui. C'était le mois d'octobre, il avait déjà de la neige en haut, dans les crêtes, et après, j'ai descendu. Qu'il y avait un rendez-vous dans lequel il n'y avait personne, et je suis venu à stop jusqu'à Perpignan.
Qu'est-ce que j'ai dit de France, on l'oublie, j'ai jamais la traite du Maghreb ou le passeport. Pour lui, il est arrivé sans passeport. Il est venu sans passeport. Il est venu par le Maroc. Après, il est venu avec le Zodiac. Jusqu'à l'Espagne. Parce qu'il a fait plusieurs demandes de visa, toujours le regret. Il est entré à pied à la frontière. Fais-tu avec la frontière ou fais-tu le bateau?
Non.
Le Maroc, le
Maroc. Septa. Septa, tu es à pied.
Il est entré à Septa. Parce que Septa, c'est un pied espagnol. Là, il est entré à pied. Après, quand il rentre à Septa, maintenant, ça veut dire qu'il est en Espagne. Il peut traverser direct
Khouzirat.
Dans le bateau, à Khouzirat.
Ça coûte de Céline le baccalauréat en Espagne.
Ils ont acheté pour manger à l'Espagne, un sac ou deux, et ils ont déparé. كيفاش درت من لافونتيير تاع الاسبانيا حتى تسبانيا هنايا بين فرنسا واسبانيا كيفاش فت في الباطو في تران ولا كار ولا
ريسك
في اللوطو
ريسك ابي
لا ريسك ابي
دو
il est avec son copain تعرف هنا لك لا ريجون كي دايره ولا كانت عندك كارطه باش تمشى ولا
والو كارطه ما كاش
لا غير هي كوني غير Comme ça, il marche ici tout.
Rawli, la première fois, ça Rawli n'a dit les kimmit foodmint.
Il y a des copains qui nous ont dit la direction où tu vas ou bien. Où on fait tout, je me dis, fait.
Pertus.
Pertus, les montagnes de Pertus. Après, où on a tout.
Ici d'ailleurs, il y a un chemin qui va jusqu'à Puigcerdà. Et après d'ici d'un beige, il y a un qui va à la qu'on appelle la vignole qui vient par là et vous allez à Puigcerdà. Il y a plein de chemins là qu'on peut passer. C'est plein, plein, plein.
De passer, on a pris le train, avec tout le risque que cela comporte. On n'a pas été contrôlé. C'était le jour de la Saint-Joseph, le 23-24 mars, en 56. Là où je dis qu'on est passé à pied, c'est quand on est descendu à la gare de la Tour de Carole pour aller au village, là à pied.
Le train, il est ici, qui vient de Ripoll, il vient de Barcelone, si vous voulez. Il vient de Barcelone, il monte vers Vic, tout ça, ici. Il va à Ripoll, il monte à Ripoll, à Ribes de Freixenet. De Ribes de Freixenet, il y a le train cremallera. Vous voyez Cremallera qui va à Núria, après il continue comme ça, il va à la Molina, il descend toute la vallée là, Puigcerdà, et de Puigcerdà il arrive à la Tour de Carole, que c'est la fin.
Je suis venu seul. Et j'entrais en France. Avec le bateau, oui. Allez, compte à Perpignan. Je suis venu en bus, jusqu'à la gare de Perpignan. Et il m'a contrôlé là-bas, à la gare. Au début, j'habite dehors. Au début. C'est la première fois, je connais rien, tu sais. J'étais très très peur.
C'est un joli coin, hein? C'est le meilleur climat qu'il y a en France.
Moi, je suis un fonctionnaire d'État. Je travaille à la mairie en Algérie. Et je travaille presque 8 ans pour m'en cotiser, pour avoir ce subit là par avion.
La Massana, c'est ici. Vous avez
8 ans de travail.
On est quoi dire? Quoi dire? Novolus, quand la Massane il est par là.
Avant, je venais de Maroc ici, 1999, le mois de mai, le premier du mois de mai. Je venais avec un visa. Je venais avec les gosses ici. La fille, les Yasmina, 16 ans. La garçon, Mohsin. Mohsin, il est 14 ans. Et Abdelhadi, il est là avec moi maintenant. Il est 10 ans. Il a fini. Il a fait 10 ans hier. J'arrive pas à entrer les deux pour l'école. Parce qu'ils sont entrés comme ça avec moi caché. Et ça, il était avec moi dans seul le passeport. Ça, il est entré cette année à l'école.
On ira
jusqu'à
Olot. Retirada et exil.
La première visa, j'étais en Espagne.
Le 10 février 1939, les forces de la 26e division franchissaient la frontière à Puigcerdà. Avec elles, les dernières troupes organisées quittaient la Catalogne.
Je me souviens beaucoup de ce février 39. Mes parents, ils étaient de la CNT. Ils avaient collectivisé deux fermes dans un village, Gironella, en Catalogne. Bon, mais il y avait la guerre. Et la guerre, donc, les franquistes avançaient. Et il a fallu partir. Au moment où il a fallu partir, moi je jouais avec mon copain à un endroit, et il y a ma mère qui descend. Il dit, il faut partir. Parce que les gens de la collectivité sont déjà tout prêts. Ils sont sur la route, deux charrettes. Ils ont attelé deux charrettes et ils sont prêts à partir. Donc, on passe à la maison. Ma grand-mère, ma soeur, ma mère, et on arrive sur la route, deux charrettes, et on s'accroche derrière les charrettes. Et tagran, 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 tagran. Ma mère, elle me dit, on n'ira pas loin. On ira jusqu'à Olot, et à Olot, parce que ce que je pensais par la suite, les charrettes étaient chargées, donc des semences, de l'outillage, parce qu'ils pensaient certainement qu'ils n'iraient pas en France, qu'ils allaient collectiviser notre ferme. Mais ça n'a pas été comme ça. Et on est arrivé à Saint-Jean de las Abadesas. Mais il y a un moment qu'on a du tout abandonné. Les charrettes, l'âne avec le cabriolet, il a fallu marcher à pied. On est arrivé à Moyo, on est arrivé au Col d'Ara, on est arrivé à Prats de Moyo à pied, et à Prats de Moyo, ça a été le drame. Le drame, c'est qu'on a beaucoup de monde qui descendait, beaucoup de monde qui arrivait à Prats de Moyo, et alors on entend que ça criait de tous les côtés, que ça chialait, que ça pleurait, mais nous, on ne savait pas ce qui se passait dans la suite de ce côté. Les hommes d'un côté, on a passé entre deux rangées de gendarmes, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Et pas de discussion. Hein. Et comme il y a des gens qui arrivaient derrière, il fallait pousser. Et j'ai pu rester avec ma mère et ma grand-mère, et ma sœur. Et puis avec les femmes qui venaient de la collectivité, on était ensemble. Et le soir, on s'est trouvés à Perpignan. On est arrivé à Perpignan, à la gare. C'est là qu'on a eu les premières boissons chaudes et on nous a foutu dans un train et toute la nuit on a roulé. Le lendemain matin, on s'est trouvé à Besançon. Et là, on y est resté quelques temps. Et à Besançon, on nous a envoyé à Morteau. Et à Morteau, on a été cueillis, mais avec un accueil fort. Un bon accueil. Alors là, on a pu se faire comprendre avec les gens de là-bas et on s'est dit qu'on avait été séparés de mes parents. Mais on ne savait pas où ils étaient, mon père et mon oncle. Alors ils se sont dit, bon, ça va. Une délégation est partie de Morteau, enquêter. Ils ont trouvé mon père au camp d'Argelès. Ils sont remontés avec l'adresse, et depuis, on a pu se communiquer. Pour nous, ça a été une retrouvaille. Bon, Morteau, ils n'ont pas pu nous garder. Alors, de Morteau à Pontarlier. À Pontarlier, on est resté un temps aussi, et ensuite, Arcenant. Et là, on était, bon, tous les réfugiés de la comté de Dudou, on était tous rassemblés. Je vous parle de 6 mois, du jour qu'on est passé la frontière au jour qu'on était à Arsenal, écoulé 6 mois. Et alors un jour, ils nous disent, préparez-vous, demain, tout le monde disparaît. En effet, on nous embarque dans un train, et qu'est-ce qu'on se trouve, ça devait être le soir aussi que nous avons mis dans le train, et le matin, on se trouve à Perpignan. On se trouve à Perpignan, mais où c'est qu'ils nous amènent? Putain, mais... Ils avaient eu des échos qu'on les renvoyait en Espagne, pour qu'ils ne nous foutent pas en Espagne. On ne savait pas, nous. Et alors, en montant des autobus, nous voilà partis. Nous voilà partis sur la route d'Argelès. On ne savait pas, nous, on voyait les montagnes qui approchaient les Pyrénées, et on se disait, putain, mais qu'est-ce que c'est qu'on va? Et moi, je sais que quand même, on est curieux. On était collés au chauffeur. Et on lui demandait où c'est qu'on allait, parce qu'on parle catalan. Et donc, il parlait catalan, on s'en comprenait bien. Vous en faites pas, vous irez dans des endroits magnifiques. Douche et tout ce qu'on voudra. Oui, oui. On arrive à Argelès, et tout d'un coup, qu'est-ce qu'on voit? Les barbelés. Les cabanes. Les gens derrière. Dans l'autobus, un cri, le camp de concentration. En effet, c'était le camp.
Ils se sont battus pendant 3 ans contre le fascisme et le nazisme pour se retrouver derrière les barbelés.
45 918 ouvriers agricoles.
Les barbelés de la honte.
529 techniciens de l'agriculture. 110 aviculteurs.
Bon, qui sont les barcarés, Argelès, Saint-Cyprien ou l'autre, c'est toujours pareil. Hein. Les barcarés réfugiés espagnols sont pris pour construire des camps de concentration.
8690 maçons, 924 tailleurs de pierre de marbre. Il y avait le camp des hommes et le camp des femmes. Ils étaient séparés par un espace assez large. Je me rappelle que quand on est arrivé au camp des femmes, tous les hommes, ils étaient amassés sur les fils de fer, sur les barbelés, loin, et ça criait, comme dans les parloirs de prison, sans doute, je ne sais pas, j'ai jamais été, mais ça doit être un peu comme ça. Donc, ils criaient pour essayer de voir. Il y avait un face-à-face, quoi. Un face-à-face, mais c'était la voix, elle portait, mais ils n'arrivaient pas. C'était des cris qu'on entendait. Je les entends encore. Ça, c'est tout ce que je me rappelle. Hein. Et je me rappelle, donc, ils nous avaient amené les gosses, peut-être à une douche ou un truc comme ça, et c'était vers Argelès. Bon, là, on y était resté 6 mois.
Le premier camp qu'il y avait en France, c'était Argelès. Il n'y avait rien. Il y avait 2 poteaux. Il y avait un panneau en haut, il disait « camp de concentration ». Parce que c'était le camp de concentration, même que les Français disent que non, c'est un camp de concentration, puisque on a des timbres d'enveloppe qui sortent du camp de concentration, marqué camp de concentration. Et là, les parents, ma mère et d'autres femmes, ou les hommes de l'autre côté, ils faisaient une espèce de sillon, un trou, on pourrait dire, à la sable pour s'abriter du vent. Bon, et quand on enlève un peu de sable, c'est mouillé. Alors, comment ça fait que j'ai mal au rein? C'est de ce moment que j'ai mal au rein. Et la bouffe, il n'y avait pas de bouffe. Ça chantait une chanson, et après il disait en espagnol, « Si los piojos alumbraran como alumbran los faroles, estaría Argelès lleno de illuminations. » Parce que depuis de tout, il y en avait, et de misère.
Barcarès, Saint-Cyprien et Argelès. C'est les 3 camps qu'il y avait sur le sable. Après, il y a Rivesaltes. Mais Rivesaltes, c'est déjà...
C'est un camp de concentration. Le premier qui l'a inauguré, c'était les Espagnols. Après, il y a eu les Juifs. Que de là, ils sont partis à côté de Paris, à Draxi. Et de là, en Allemagne, extermination, comme beaucoup des Espagnols. On ne la voit pas ici. Oui, c'est ça, mais on ne voit pas là. Ah, voilà. Là, il y a la route qui va au pôle, là. On va passer là. De ce côté, maintenant, c'est on sait qu'il y a les rétentions pour les sans-papiers, etc. Et ça, il se trouve là.
Il y en a des gens, même ici à Perpignan, ils ne sont pas au courant du centre
de rétention de Rivesaltes, dont on a parlé plusieurs fois. Celui qui passe, il passe. Sans retour.
Nasser était le porte-parole du collectif des sans-papiers de Perpignan. Il a été expulsé vers l'Algérie en août 2003.
C'est-à-dire personne n'est à l'abri.
Et là, on est à une des entrées du camp Joffre, du camp de Rivesaltes, ce camp qui a existé depuis le début de la dernière guerre de 39-44, où ont été placés les gens qui venaient d'Alsace et de Lorraine, qui fusillaient l'invasion nazie, qui ont été soi-disant accueillis, réfugiés, mais qui bien vite ont été plus ou moins internés. Voilà, alors on n'a rien trouvé de mieux dans la continuité, c'est de mettre là le centre de rétention administrative où sont placés tous les étrangers qui doivent être reconduits à la frontière, soit dans leur pays d'origine, soit dans un pays où ils sont, comme le dit la loi, légalement admissibles. Et ce centre est construit en Algico, en plein milieu de ce terrain. Alors évidemment, quand il y a la tramontagne, il fait froid, quand il y a le soleil, il fait trop chaud. Voilà. Alors, dès l'instant où l'étranger rentre dans le centre de rétention, il est accueilli par le service de garde qui est, à Rivesaltes, la gendarmerie mobile. Il est fouillé, de la tête aux pieds, une fouille complète, dans une petite salle réservée à cet effet. Il dépose son argent, ses bijoux s'il en a, et on lui prend le reste, c'est-à-dire sa radio, son Walkman, ses lunettes, sa ceinture, ses lacets, ses bagues, s'il en a. Et donc là, il reste... J'ai vu un homme d'ailleurs qui avait un certain âge, qui n'avait que des pantalons un peu lâches. Eh bien, il tenait son pantalon toujours avec ses deux mains de chaque côté. Alors il avait eu l'idée de prendre un plastique qui entourait un papier de cigarette, un plastique qui entoure un paquet de cigarettes. Il en avait fait comme un petit ruban pour attacher entre les deux passants, pour retenir un petit peu son pantalon. Et les gendarmes lui ont fait enlever. Alors une fois que ces étrangers sont démunis de leurs affaires propres, là, les gendarmes leur disent, vous avez la CIMADE dans tel bureau, vous pouvez aller la voir quand vous voulez. Et c'est là que notre rôle commence, d'accueillir l'étranger.
Que voulez-vous que je vous dise ? Un sans-papier, c'est à mort. C'est à mort vivant. Il n'a aucun droit. Aucun droit.
Certains moments, j'ai dit, ça y est, ma vie, elle est partie. Ça y est. Ça y est. On est foutus, les gens, ils sont bien profités à nous. Ça veut dire, ça y est, j'ai pas l'espoir. Surtout qu'on l'a matinée, je regarde à la fenêtre, tout le monde, à mon âge, ça veut dire à côté de l'Ubis, quelqu'un qui contre sa voiture, tout le monde a son boulot. Et moi, j'ai croisé les mains. C'est ça qui me fait mal.
La vérité, je ne sors pas. Je ne sors pas. Ce temps-là, je ne sors pas. Ça fait presque un mois que je ne sors pas. Et je suis ici, les flics, maintenant, ils sont là-bas. C'est pas, j'étais en mosquée et je les vis en train de monter et descendre. Même ici, si tu te regardes là, cette fenêtre, ils sont ici. Tu n'es pas sorti. À mon âge de courir dans les rues, ça c'est pas bon ça. Seulement, je reste à la maison ou au quartier là-bas, où j'habite.
Électricien. 135 dans 490 spécialistes TSUF.
2440.
6524 chauffeurs automobiles. 3034 cheminots. En juillet 1939, le service d'évacuation pour les réfugiés espagnols fit une enquête dans les camps et en publia les résultats sous la forme d'une liste des travailleurs disponibles. 928 tailleurs.
310 officiers de la marine. 210 officiers.
Mais je vous dis, là, mon père est parti pour qui démentait les hommes pour travailler dans les mines ou dans les sources parce que bon, le français était dans. Peut-être il s'était parti à la guerre ou pour la libération, je ne sais pas. Alors il manquait des main-d'œuvre voilà, pour travailler. Alors il demandait des volontaires pour travailler dans les mines. Alors mon père, il dit bon, que ce soit une chose ou une autre, il faut sortir du camp. Alors il est parti avec un groupe qui partait vers Briançon.
6524 chauffeurs de conseil, employés de 3034 en cheminée. Au bout de 6 mois, enfin, avant 6 mois, mon père est sorti en tant qu'ouvrier agricole dans la Nièvre. Donc, il y avait une correspondance entre la Nièvre et le camp de concentration. Seulement, mon père, il était tellement mal à la ferme qu'il préférait retourner au camp de concentration. Alors il dit au patron, moi je ne reste plus parce qu'il l'exploitait de telle façon que c'était quelque chose d'inimaginable. Et le patron, il dit, toi, tu es un bon ouvrier, tu resteras. Je vais faire sortir ta femme et tes gosses. Putain, lui. Il a enduré. Et c'est comme ça qu'on est sorti du camp d'Argelès.
Agriculteurs, 797 vachers et fermiers.
2577 c'est une machine de 714 ouvriers de l'industrie de l'automobile.
9 heures de conseil.
565 ouvriers
de 2688
marins. J'ai parti à Montpellier. À Montpellier, j'ai resté un petit moment dans un surcroît. J'avais pas de sous. Bon, c'est la galère. J'ai trouvé un travail avec un type marocain. Je travaille au noir. Eux, ils appellent ça dimanche chaud. Dimanche chaud, ça fait des entrepreneurs au noir. C'est comme des agences. Des agences, mais c'est au noir. C'est comme au noir. Un type, par exemple, il a des travailleurs, des bosseurs. Et par exemple, il rencontre un entrepreneur qui est en règle. Eh ben, au lieu par exemple de prendre ce bosseur de l'agence, par exemple, et il fait combien le bosseur à l'agence? 1000 balles et quelques à la journée. L'autre, il le prend par exemple à 800 balles. Et vous savez combien il me paye? Il me paye 250 balles par journée. Et je faisais plus de 9 heures. Je commence de 7 heures jusqu'à 5 heures de soir. C'est ça. Eux, ils appellent des manchots. On était plus de 8-9 personnes comme ça. Même étant, même cas comme moi.
J'ai trouvé un travail, ouais. Mais c'est pas travail, qu'est-ce que j'étais enlevée pour faire. J'ai fait chez une dame le. Elle m'a fait le loger et nourrir chez elle et j'ai travaillé femme de ménage. Mais pas normal comme femme de ménage. Ça veut dire je commence le bonheur et j'ai fini jusqu'à minuit et demi, ça dépend le jour comme boulot il y en a. Et elle était dure avec moi. Et elle me paye 1500 francs anciens par mois. Et c'est moi que je fais le jardin, c'est moi que je toyais la piscine, c'est moi que je fais le ménage, c'est moi que je fais le repassage, c'est moi que je prépare la table, c'est moi que je débarrasse la table. Et le début, je mange toute seule, je chauffe qu'il reste une semaine au frigo, c'est moi que je chauffe et je mange. Et quand on le prépare, c'est pour eux. Et elle ne veut pas que je contacte avec les autres quand ils viennent chez elle, elle ne veut pas que je parle. Le début, elle me cache.
Thank you.
Ah bah, dans la vendange, je travaille le thé dans la vendange. Je gagne un peu bien de l'argent. Comme ça, je le cache pour manger. Et les gourmets, les bijoux, les bagues, tout ça, je vendais pour manger. Tout ce que je n'ai, moi, je le vendre tous. Et la reste, qu'est-ce que ça? Je l'en mangeais.
J'ai décidé de venir ici, en France, parce que la France, c'est un pays qui est pays de la liberté, pays de travail, pays de l'égalité. Voilà. Je suis entré en France en 2001. Je suis hébergé chez une vieille dame. Voilà. Je travaille pas parce que j'ai pas le droit.
Non, j'ai pas le droit de travailler. Non, j'ai pas le droit. Même s'il écrit là, s'il écrit une demande, un récépissé de demande de carte 6 jours. Voilà, un récépissé de demande de carte 6 jours, mais là, là-dessus, c'est écrit. Il n'autorise pas son titulaire de travail, à travailler. Il n'autorise pas son titulaire à travailler. Eh ben, il n'autorise pas son titulaire de faire quoi?
Mes parents, ils étaient de la CNT.
Mon père n'a jamais été un combattant militaire, il a été un combattant civil.
Ils avaient collectivisé deux fermes dans un village, Gironeille,
a fait partie
en Catalogne.
Avec tous ceux de la CNT et ceux de la UGT, à Alicante, ils ont créé la IMSA. Et la IMSA, c'était Industrias Metallurgicas Socializadas de Alicante.
Donc collectivisé, je me rappelle avoir mangé à leur table, je me rappelle de voir comment ils travaillaient, tout ça, en collectivité, il y avait une harmonie, pensée de 10 ans, d'un gamin de 10 ans, je trouvais ça super parce qu'ils avaient laissé tout leur boulot pour aller à la collectivité.
En même temps qu'ils avaient fait la collectivisation des terres, là, ils avaient fait la collectivisation de l'industrie. Dans la CNT, ils étaient divisés par branches. Et donc, ils faisaient partie de la branche métallurgie. Alors, tous les métallurgistes se sont réunis. Ils ont mis tous leurs moyens intellectuels et matériels en association pour fabriquer ce que la République avait besoin. Et tout ça, ce sont mon père qui était mécanographe, donc qui ne connaissait rien, se sont mis à faire toutes ces choses-là pour permettre justement à la République de résister au franquisme pendant 3 ans. Alors que Franco, il avait les Italiens et les Allemands qui l'aidaient dans tout ce dont il avait besoin. Bien sûr, on ne pouvait pas travailler individuellement, donc les petits ateliers d'artisans, volontairement, sont venus s'annexer à cet ensemble. Mais ça concernait toute la métallurgie. À tel point que je dis qu'ils fabriquaient des moulins à blé, des moulins pour les amandes, des presses pour presser le vin, tout en ayant involontairement, pour ainsi dire, une activité militaire. Mais enfin, leur vocation était civile, pensant que la guerre gagnée, cela continuerait et la société espagnole allait changer dans cet esprit-là, dans un esprit social, socialiste. Et cela s'était passé dans toute la zone méditerranéenne, c'est-à-dire à Barcelone.
Allez, au revoir.
À Valencia, partout. En même temps, ils avaient fait la mobilisation. Ils avaient fait la mobilisation.
Joan.
Mon père est parti au fin mars. C'est-à-dire qu'il a tenu jusqu'au maximum. Ils ont tenu jusqu'au moment où ils ont vu enfin que c'était... Et on pensait que la guerre allait se terminer, mais dans une phase un peu plus humaine. C'est-à-dire que Franco, vainqueur, bon, il allait être assez magnanime pour dire « Bon, j'ai gagné, ceux qui ont perdu, restez chez vous et n'en parlons plus. » Non, non. Après la guerre, il y a eu un esprit d'élimination. On a voulu éliminer tout ce qui avait résisté au franquisme. Toute personne qui leur avait résisté était des gens indésirables, des gens à éliminer. Hein, c'est-à-dire des gens qui, par leur action, avaient permis cette résistance de 3 ans. Et ces gens-là, dont on ne pouvait pas les identifier, si ce n'est que par l'étiquette d'ouvriers syndiqués, c'est ceux qui ont payé plus que les autres. Ils ont été tués, enfermés, jugés, condamnés, enfin, plein de choses.
Mon oncle, le mari de ma tante où j'ai atterri après, il avait passé 5 ou 6 ans en prison aussi. Parce que bon, on l'avait dénoncé où il travaillait au village, il n'avait rien fait, mais enfin, il avait passé quand même quelques années en prison, dans les prisons de Franco. Donc bon, si vous voulez, on se taisait, quoi. Il fallait se taire de toute façon. Je savais que bon, mes parents et tout ça, ils avaient fait la guerre contre Franco, mais je ne savais pas plus hein, à l'époque. Mais comme je savais aussi mes oncles par ma grand-mère qu'on les avait tués, parce que bon, et les deuxièmes, parce que ma grand-mère, les derniers, il était malade, sinon il serait passé peut-être en France, il était tombé malade dans le front de Caspé. Et il avait 41 de fièvre. Quand la retirada, il n'a pas pu marcher, partir. Alors ils l'ont attrapé chez ma grand-mère, malade avec 41 de fièvre. Et ils l'ont obligé à aller à pied faire le tour du village. Et évidemment, mon grand-père l'a accompagné, il ne pouvait pas marcher. Alors ils ont fait tous les deux, son fils a appuyé sur lui, le tour du village, ils l'ont amené en prison et 2 jours après, il était mort. Ma mère me disait, il faut trop parler, voilà, il faut mieux se taire. Alors bon, on avait pris l'habitude de se taire et pas trop parler.
Alors mon père était menuisier, nous étions donc de Barcelone. Et nous habitions un village, un quartier qui s'appelle La Torrasse, réputé pour être vraiment très ancré dans le nazisme. Il faisait partie d'un groupe, du groupe Facerias. Il fut arrêté en 1947. Il a passé 9 ans de sa vie en prison, étalé sur plusieurs années, puisqu'il est sorti en 1955. Et cette première fois, il fut arrêté quelques mois. Ma mère pourrait le dire beaucoup mieux que moi, hein. Quelques mois. Que quelques mois. Par la suite, il fut de nouveau arrêté. Et là commença le calvaire, oui. Hein, il fut interné, enfin, il fut questionné dans ce qu'on appelle nous en Espagne, la jefatura de policía, sur le commissariat central. Lugubre, noir, dégueulasse, affreux. Moi, je me souviens parfaitement. Pourquoi je me souviens? Parce que ma mère s'est toujours occupée de m'amener de partout où elle allait, j'allais avec. Mon frère était beaucoup plus jeune, moi j'avais donc 7-8 ans. Et je me souviens parfaitement que par une petite fenêtre, un petit guichet là, elle introduisait un paquet avec un peu d'aliments et du linge propre. Et par notre guichet qui était à côté, elle récupérait donc les assiettes, ce qu'il peut y avoir, ou les petites casseroles, et du linge donc sale de mon père. Et ça, je me souviens parce que je l'ai entendu, je me souviens, c'est pas. Ma mère m'a expliqué par la suite, je me souviens parfaitement, que là-bas, sur place, dans le hall, elle développait le linge, et puis me le montrait, et puis me dit, tu vois le sang qu'il y a là. Et bien, c'est ce monsieur-là. Et ce monsieur-là, il y avait un policier ou deux, là. Qui frappe ton père. Et bien sûr, ma mère se faisait jeter, mais bon, voilà une partie donc de l'éducation que moi j'ai subie, et ça je me souviens parfaitement. Voilà quelle façon elle a eu donc d'éduquer, je n'étais pas le seul, hein. Mais voilà, et moi ça j'admire. Je ne sais pas comment elle s'est débrouillée pour me faire même rentrer voir mon père à l'intérieur, ce qui est chose rarissime. Et moi, je peux décrire la pièce. Hein. C'est une pièce d'à peu près 2 mètres. Il n'y avait aucun lit, rien. Il y avait un banc en ciment. Et sur le banc en ciment, donc, il s'asseyait, il pouvait dormir, c'était seul. Hein. Et dans ces souterrains-là, il devait y avoir 4 ou 5 pièces comme celle-ci-là. Et je me souviens d'avoir vu mon père une seule fois que je l'ai embrassé, mais qu'il n'ait pas eu la force de rien, il était vraiment... vraiment comme un sac de marchandises qu'on a vidé avant la moitié, voilà. Hein. Donc il avait dû être torturé, ou il allait l'être, il n'avait pas tous ses esprits. Mais voilà pour ce qui concerne le début de l'ère, disons, noire, très noire que nous avons vécue.
Pour déplacer tout le temps la peur, pour acheter quelque chose, peur. De travail, t'as pas le droit de travailler. On est vraiment à la misère. On vit à la misère ici.
Il y avait les intimidations, des menaces, et tout. Pas des intimidations, que des intimidations, mais des arrêts et des reconduites à la frontière. Si j'étais de menaces d'expulsion, sec et sans, avec des reconduites à la frontière. Et chaque jour, chaque instant, ils sont à l'abri de rien. J'avais même une personne qui était avec moi dans le noyau. Un matin, elle est allée chez le dentiste, ils l'ont chopée. Elle est en Algérie. Je pourrais rien faire. Je pouvais rien faire.
Les gens comme nous, personne qui pense que la police, pour remplir la journée, n'importe policier qu'il prend quelques quantités de l'éclat d'eau, ça veut dire qu'il est fier de lui. Il dit, ça y est, moi j'ai travaillé aujourd'hui, j'ai chassé, c'est des chasseurs. Ça veut dire que tu prends quelqu'un pour gagner ta journée et t'as chassé des clandestins, penser qu'est-ce qui se passe derrière la frontière. La frontière, elle attend nous, ça veut dire, on risque ça tous les jours, ça veut dire. C'est un cauchemar à tous les gens qui sont sans papier. C'est le cauchemar, un jour il est à la frontière.
Moi j'ai 4 arrêtés de reconduite à la frontière. Et j'ai peur de personne. Pourquoi ? Parce que c'est mon droit. Je réclame mon droit. Un seul but. D'être régularisé. D'avoir une place dans cette société. Comme tout le monde. Comme chaque personne.
Ça suffit le profitage à les gens qui ne sont sans papier. Ça suffit, on est des humains. On est des humains comme vous, ça veut dire.
Et j'ai peur de personne. Déjà, le collectif, notre collectif, là, c'est un collectif expulsable. C'est-à-dire, tous les membres du collectif, ils ont un cas expulsable. Nous, on exige une régularisation globale.
Bon, le début, j'ai peur. Mais je peux jusqu'à quand? Les années, ça passe. Les jours, ça passe. Je peux jusqu'à quand? Et les papiers, quand? Ça veut dire tout le temps quand, le cauchemar quand. Cette question quand, ça veut dire pour moi, quand je pose la question quand, et qu'est-ce que j'ai perdu des années, alors j'ai pas l'espoir, je coupe l'espoir, j'ai dit ça y est, je suis perdue moi. Et vous trouvez ça c'est normal? Et je laisse la question à tout le monde qui attend ça. Vous trouvez est-ce que ça c'est normal?
Je sais que cette lutte, ça ne va pas être facile. Elle va être encore plus dure que celle précédente, mais on va aller jusqu'au bout. Même si occupé, même je ne sais pas, mais comme j'ai dit, jusqu'au bout, c'est jusqu'au bout, jusqu'à la fin. même si jusqu'à la fin de notre vie, ils sont capables. Le collectif, il est capable. Ils sont sortis de l'ombre, ils ont dit non à la clandestinité, non à l'exploitation du patron, non à cette précarité. Ce qui nous donne plus de courage, c'est ça. De se mobiliser, d'aller jusqu'au bout. Et jusqu'au bout. Et comme j'ai dit, rien ne va nous empêcher. Ni barreaux, ni barrières, ni frontières.
Appel aux Espagnols antifascistes pour une alliance démocratique de résistance antifranquiste. Travailleurs, intellectuels honnêtes, républicains de la gauche républicaine et de l'Esquerra Catalana, socialistes du PSOE et du PUM, ouvriers de la CNT et de l'UGT, membres de la FAI, jeunes libertaires, hommes et femmes de toutes conditions, amis de la liberté. Mettez au service d'une résistance active ce dont vous disposez, dans la mesure de vos moyens. Force, détermination, intelligence, savoir, volonté, aide économique. L'union de toutes les valeurs morales pourra seule renverser le régime injuste qui nous opprime. Francisco Sabaté, Espagne, février 1956.
Dès qu'on est arrivé à Tuire, il est évident qu'on n'était pas loin du village, dans une ferme. Mais de suite, il y a eu beaucoup de réfugiés espagnols qui nous ont accepté d'aller au CIA. Et donc, on a commencé d'aller aux réunions. À Tuire, il y avait une locale. On a fait une grève très dure. Là, on nous a foutu à la porte. On travaillait les vignobles, puis on a voulu se solidariser avec des vendangeurs. Et c'est là que j'ai commencé vraiment militer, parce que j'ai eu des contacts complets avec Perpignan. Un groupe de jeunes, avec la CNT, la FILG, la Jeunesse Libertaire. Et au début, c'était des giras, des sorties, du théâtre, d'affichage, campagne d'affichage, beaucoup de réunions, ça oui. On discutait surtout de la situation, notre situation. Parce que déjà notre situation en tant qu'exilé, elle était très, très difficile.
Mettez au service d'une résistance active ce dont vous disposez, dans la mesure de vos moyens.
Oui, alors, force, pour avoir vécu, intelligence, d'ici, savoir, on passait par pièces détachées des machines d'imprimerie. Par pièces détachées, parce que ici, à Perpignan, on a.
Nous, on a été actifs jusqu'à 1975.
Façonné.
Jusqu'à 1975, donc il y avait toujours des groupes qui réussissent. Donc il y a eu davantage de groupes qui sont sortis. Il y a eu, des pertes, parce qu'il y a eu quand même des copains qui ont été garrottés. J'ai entendu parler à l'époque de Garde Granados, qui ont été garrottés. De Garde Granados, qui ont été garrottés au bout de 15 jours. On avait une activité, nous, vraiment, à deux niveaux, une activité de passage et une activité pour réveiller l'opinion publique vis-à-vis de l'Espagne.
Donc voilà le boulot de quoi il s'agissait. Alors qu'est-ce qu'on fait donc nous ici? On s'investit un peu dans le quotidien. Le quotidien c'est quoi? C'est donc actuellement c'est les sans-papiers.
Venir avec le collectif de Perpignan, c'est pas un peu facile, mais c'est facile, comment dire, c'est facile. Pour avoir des papiers ou avoir des raisonnements sur le quotidien, comment faire pour avoir des papiers ou comment se diriger. Il y a du travail, c'est eux qui... On ne sait jamais. C'est ça, moi.
Nous, on ne se cache pas, on est pour un changement de société. Et on estime qu'il faut donc se battre pour changer les choses.
C'est au moins, on va agir, et parfois, pour les gens, savoir qu'ici, à Perpignan, il y a des gens, ils sont sans papier, et il y a des gens qui sont malheureux, il y a des gens qui ont travaillé chez ici, des patrons de l'agriculture, qui ont travaillé au champ. C'est dur ici.
Et on sait ce que c'est, être caché, travailler pour moins que rien, parce que être plus qu'exploité, ça, on sait ce que c'est. Être séparé de la famille.
C'est dur et c'est pour vivre. Et c'est pour ça que je vis ça, avec plaisir. Et en voyant tout le monde nous aide et tout le soutien ici, ça va quand même.
Donc voilà,
Et moi, je souhaiterais qu'on lutte pour qu'il n'y ait plus jamais aucun problème de sans-papiers, ni en France ni ailleurs. Mais là, je suis en France, donc en France. Aujourd'hui, c'est Magabène, demain, ça peut être autre. Qu'il n'y ait plus de problème.
J'ai distribué les tracts là. J'ai donné un flic qui est en train de passer deux fois, trois fois, je lui ai donné. Je te jure, je lui ai donné. Il a dit rien. Il a dit, c'est quoi ça? Tu vas lire, lire, tu vas voir. C'est un flic. Il a passé trois fois, quatre fois, j'ai repéré. J'ai passé. Monsieur, tiens, tu peux lire.
Et quelle que soit leur culture ou leur idéologie ou autre, aujourd'hui, je ne dis pas demain, mais je dis aujourd'hui, on se doit humainement d'être à côté. D'être à côté. Et le seul moyen qu'ils ont, c'est ce qu'ils ont fait là. Créer un collectif, appeler à la solidarité, et puis prendre le risque de tout perdre. De tout perdre, d'accord? Mais peut-être aussi de gagner quelque chose.
J'ai jamais peur, j'ai jamais peur. Là, la vérité, j'ai jamais peur. Il y a des gens avec nous, il y a des gens qui sont peur. La vérité, ils sont peur, ils perdent des flics. Et après, c'est la vie. Hein. Si j'avais pas moi mes papiers, les autres avoir les papiers. Hein. Je risque moi pour les autres. Allez.
N'importe qui, ça veut dire qu'il rentre en pays étranger, il sait qu'on contacte pour savoir les nouvelles, comment ça se passe, comment ça marche. Et heureusement, on a contacté ici. Et ici, on trouve qu'on est bien, ça veut dire qu'on ne sent pas qu'on est toute seule dans la vie. On reste attaché dans le collectif. On vient souvent, ça veut dire c'est pas. Il y en a qui viennent aujourd'hui, demain ils ne viennent pas. Ça veut dire il faut tout le temps prendre les nouvelles. Il faut tout le temps s'il y a une manifestation, il faut tout le monde ils sont là pour on monte à la préfecture qu'on est là. Ça veut dire on lâche pas. On a le parole. Ça veut dire on est là debout. Ça veut dire.
Bon, je suis rentré au collectif, ça fait 3 mois que je suis en collectif de sans-papiers. Avant, j'étais tout seul. Eh ben, quand je suis en collectif de sans-papiers, voilà, je suis sorti directement pour traduire des tracts, pour parler avec les gens qui sont ici en France, voilà. C'est vrai qu'il y a, il y a le risque, mais... La misère, c'est la misère et la situation quand on vit ici en France, c'est vrai on perd, mais il faut le risque mieux que qu'on reste à la maison. Il faut qu'on sorte et parle, mieux qu'on reste directement.
Aujourd'hui je vais en Espagne et je ne suis pas chez moi.
Moi, j'aime bien mon pays.
Parce que j'appartiens à une Espagne qui n'existe pas.
Franchement, j'aime bien mon pays.
Une Espagne très idéaliste.
Parce que c'est mon pays.
Très utopique, peut-être.
Mais je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien dans mon pays.
Et cette Espagne, aujourd'hui, n'existe pas.
Et je ne veux pas rester dans mon pays. Il faut que j'aille ailleurs. Normalement, le monde, il n'y a plus de frontières. Il n'y a plus de frontières.